Chapitre 5. Cette histoire de M. Vincent, telle que la racontaient ses deux honnêtes compagnons, c'était en quelque sorte la légende vulgaire de l'argent des autres, si âprement convoitée et si furieusement disputée. Ce qui vient par la flûte s'en va par le tambour. L'argent volé a des pentes fatales, et c'est irrésistiblement qu'il va au jeu, au palefrenier, aux filles, à toutes les fantaisies ruineuses, à tous les assouvissements malsains. Ils sont rares parmi les détrousseurs effrontés de la spéculation, ceux à qui véritablement profite le bien d'autrui, si rares qu'on les cite et qu'on se les montre, et qu'on pourrait les compter comme on compte les filles qui, sautant une nuit du trottoir dans un appartement de 500 louis, savent s'y maintenir. Les autres ont leur destinée fixée d'avance. Saisis du vertige des richesses soudaines, ils perdent toute mesure et toute prudence. Qu'ils croient leur veine inépuisable ou qu'ils se défient d'un revers soudain, ils se hâtent de jouir, mettant en quelque sorte les morceaux doubles, comme les voyageurs de l'express pendant une station de 5 minutes à un buffet. Et ils remplissent les restaurants en renom, les grands cafés, les théâtres, les cercles, le terrain des courses, du mouvement de leur imprudente personnalité, de l'éclat de leur voix, du luxe de leur maîtresse, du tapage de leurs dépenses et des ridicules de leur vanité. Et ils vont, prodiguant l'argent des autres, jusqu'au quart d'heure fatal d'une de ces liquidations désastreuses qui terrifient le parquet et la coulisse, et qui font blêmir les figures et grincer les dents au passage de l'opéra. Jusqu'au moment où, en présence d'un effroyable déficit, ils ont à choisir entre le coup de pistolet, qu'ils ne choisissent jamais, la police correctionnelle, qu'ils tâchent d'éviter, et un voyage à l'étranger. Que deviennent-ils ensuite? Jusqu'à quel ruisseau roule-t-il de chute en chute? Sait-on ce que deviennent les filles qui tout à coup disparaissent après 2 ou 3 ans de folie et de splendeur? Mais il arrive parfois qu'en descendant de voiture devant un théâtre, on se demande où on a déjà vu la physionomie de l'ignoble ouvreur de portière qui d'une voix enrouée réclame ses 2 sous. On l'a vu au café riche pendant ces 6 mois que cet ouvreur de portière a été un gros flac financier. Mais d'autres fois, dans la foule, on saisit les bribes d'une conversation étrange entre 2 crapuleux gredins. Ah, c'était du temps, dit l'un, où j'avais cet attelage alezan brûlé, oui, que j'avais acheté 1000 louis au fils aîné du duc de Sermeuse. « Oh, il s'en souvient, répond l'autre, car c'est à ce moment que je donnais 6 000 francs par mois à la petite cabirole des délassements. » Et si invraisemblable que semble ce qu'ils disent, c'est la vérité pure, car l'un était le gérant d'une société industrielle qui engloutit 6 millions, et l'autre était à la tête d'une opération financière qui a ruiné 500 familles. C'est vrai, car ils ont eu un hôtel comme celui de la rue du Cirque, et des maîtresses plus coûteuses que Mme Zélie Cadel, et des domestiques pareils à ceux qui s'entretenaient dans ce piteux café à 2 pas de Maxence et de M. Trégard. Domestiques philosophes, d'ailleurs, et cachant leur monde. Et la preuve, c'est que le plus vieux, le cocher au nez rouge, disait à son jeune camarade: enfin, tu sais, cette affaire de M. Vincent doit te servir de leçon. Si jamais tu te retrouves dans une maison où il se dépense tant d'argent que cela, rappelle-toi bien qu'il n'a pas donné grand mal à gagner et arrange-toi de façon à en avoir n'importe comment la meilleure part possible. C'est ce que j'ai toujours fait partout où j'ai servi. Et surtout, hâte-toi de remplir ton sac parce que, vois-tu, dans des maisons pareilles, on ne sait jamais la veille si le lendemain le bourgeois ne sera pas à Mazas et la bourgeoise à Saint-Lazare. Leur confidence était terminée et ils avaient vidé leur second bol de vin chaud. « Ainsi c'est convenu, » reprit le vieux. « S'il fallait un cocher aux Congolaises qui viennent acheter l'hôtel, tu changerais à moi. »« Sois tranquille, » répondit l'autre. « Je sais que tu es des bons. » Sur quoi ils payèrent et sortirent. Et Maxence et M. de Trégard purent enfin déposer leurs cartes. Maxence était fort pâle et de grosses larmes roulaient dans ses yeux. « Quelle honte !» murmura-t-il. « Voilà donc le revers de l'existence de mon père. Voilà comment il dépensait les millions qu'il pilait à la caisse, pendant que rue Saint-Gilles, il privait sa famille du nécessaire. Et d'un accent d'affreux découragement, « Maintenant c'est fini, bien fini » ajouta-t-il. « Et poursuivre nos recherches est inutile. Mon père est certainement coupable. » Même M. de Trégard n'était pas homme à abandonner ainsi une partie. « Coupable, oui, dit-il, mais dupe aussi. Et dupe de qui ? Bien, c'est ce que nous saurons bientôt. Quoi, après ce que nous venons d'entendre ? J'espère plus que jamais. Alors c'est donc que Mme Zélie Canel vous a révélé quelque chose. Oh, rien que ne vous ait appris la conversation de ces deux mauvais drôles. » 10 questions encore se pressaient sur les lèvres de Maxence, mais M. de Trégard lui coupa la parole. « C'est surtout ici, mon cher ami, poursuivit-il, le cas de ne pas se fier aux apparences. Laissez-moi parler. Ben, votre père était-il un homme naïf ? Non. Son habileté a dissimulé pendant des années une double existence, prouve au contraire une duplicité supérieure. Comment donc, en ces derniers temps, sa conduite est-elle si extraordinaire et si absurde ? Vous m'allez dire, oui, qu'elle a sans doute été toujours telle, mais je vous répondrai que non, parce qu'alors son secret n'en eût pas été pendant seulement un an. On nous raconte que bien des femmes ont habité l'hôtel de la rue du Cirque, et qu'elles étaient autrement ruineuses que Mme Zélie Candel. Ce n'est pas là qu'un bruit. Qui étaient ces femmes ? On ne sait. Que sont-elles devenues ? On l'ignore. Ont-elles sûrement et seulement existé ? Rien ne le prouve. Tous les domestiques ayant été changés à propos, la femme de chambre Amanda est la seule qui connaisse la vérité. Elle se garderait bien de la dire. Donc, le renseignement positif ne remonte qu'à 5 mois. Que nous apprennent-ils ? Que votre père semblait prendre à tâche de faire parler de lui dans le quartier, que ses profusions étaient si extravagantes que les domestiques eux-mêmes s'en étonnaient. Cachait-il au moins soigneusement l'origine de l'argent qu'il prodiguait ainsi ? Pas le moins du monde. Il racontait à Mme Zélie qu'il était au bout de son rouleau et qu'après avoir dissipé sa fortune, il dissipait celle des autres. Déjà, depuis plusieurs jours, il annonçait son départ. Il avait vendu l'hôtel et en avait reçu le prix. Enfin, au dernier moment, que fait-il ? Résolu à fuir, à ce qu'il prétend, il raconte à tout le monde où il va. Il le dit aux marchands d'articles de voyage, à Mme Candel, aux domestiques, à tout le monde. Il ne se contente pas de le crier sur les toits. Il l'écrit sur toutes ses malles en lettres d'un demi-pied. Il se sait poursuivi et au lieu de s'esquiver comme un caissier qui a dévalisé sa caisse, c'est en grand appareil avec une femme, des domestiques, plusieurs voitures et je ne sais combien de colis qui se rend au chemin de fer. Tient-il donc à être repris ? Non ! Mais a créé une fausse piste. Donc, tout dans son esprit était d'avance arrangé et calculé, et la catastrophe a été loin de le surprendre. Donc, sa scène avec M. de Thaler était préparée. Donc, c'est bien à dessein qu'il avait laissé son portefeuille dans la poche de son redingote et très volontairement qu'il avait laissé la facture qui devait nous conduire ici tout droit. Donc, tout ce que nous avons vu n'est qu'une comédie grossière, montée à notre intention et destinée à masquer la vérité et à faire prendre le charge à la justice. Même Maxence n'était pas encore complètement convaincu. Mais cependant, observa-t-il, ces dépenses si considérables. Monsieur de Trégard haussa les épaules. « Vous doutez-vous, dit-il, de ce qu'on peut paraître et surtout faire de folie avec 1 million ? Mettons que votre père en ait dépensé 2. Mettons qu'il en ait dépensé 4. Il en a été volé 12 au comptoir du crédit mutuel. Où sont les 8 autres ? Et comme Maxence se taisait, « C'est ces 8 millions que je veux, poursuivit-il, qu'il me faut et que j'aurai. Oh, c'est à Paris, j'en suis sûr, que votre père se cache. Nous le retrouverons, il faudra bien qu'il avoue la vérité, que je soupçonne, et qu'il nous fournisse les moyens d'atteindre ses complices. » Ayant dit, il jeta sur la table le prix de la bière qu'il n'avait pas bu, et il sortit du café, entraînant Maxence. « Enfin, vous voilà, bourgeois !» leur cria le cocher, qui depuis tantôt 3 heures les attendait au coin de la rue, et dont l'accent disait de quelles inquiétudes il avait été agité. Mais monsieur de Trégard était pressé. Faisant monter Maxence dans le fiacre, il s'y élança après lui en criant au cocher « 24 rue Joclet, 100 sous de pourboire !» Le cocher, qui attend 100 sous de pourboire, a toujours au moins pour 5 minutes un cheval de la vitesse de Flageolet. Tandis que le fiacre roulait avec des cahots terribles sur les pavés inégaux du faubourg Saint-Honoré. « Ce qui importe maintenant, disait M. de Trégard à Maxence, c'est de savoir au juste où en est la crise du comptoir du crédit mutuel. Et le sieur Latermann de la rue Joclet est l'homme de Paris le mieux à même de nous renseigner. Quiconque a perdu ou gagné seulement 10 louis à la bourse connaît le sieur Latermann, lequel, depuis la guerre, se prétend alsacien et maudit, avec un accent terrible, la parperie prussienne. Cet estimable spéculateur s'intitule modestement changeur, mais il serait naïf de lui venir demander de la monnaie. Ce n'est pas le change qui lui procure les 100 000 écus de bénéfices qu'il encaisse chaque année. Lorsqu'une société est tombée en déconfiture, que sa liquidation est judiciairement terminée, que les souscripteurs dépouillés ont reçu 2 ou 3 du sang pour tout potage, et que le gérant est en fuite ou tresse des chaussons de lisière à Poissy, on s'imagine assez généralement que les titres de la dite société, si bien imprimés qu'ils puissent être, ne sont plus bons qu'à allumer le feu. C'est une erreur. Bien après que la société a sombré, ses titres surnagent comme ces épaves sinistres que bien des mois encore après un naufrage, la mer rejette sur la grève. Et ces titres, le sieur Latermann les recueille et les emmagasine. Entrez dans ses bureaux, il vous montrera d'innombrables cartons bondés des actions et des obligations qui, depuis une 20aine d'années seulement, ont seulement enlevé 1 200 millions, selon quelques statistiques, et selon certains autres, 2 milliards de la fortune publique. Dites un mot, et ses employés vous offriront des terrains de Bretonneche, des sociétés franco-serbes, des compagnies marseillaises de navigation à vapeur, des sociétés houillères et métallurgiques des Asturies, des compagnies franco-américaines, des forêts de Fort-Manoir, des salines de Saumusson, des compagnies françaises de roulage et de messagerie, des mines de cuivre de Rosdorf, près de Darmstadt, et des mines de Tifila, et des mines de Moujaïa, et des mines de Tcherchel et Tils. Et si dans tout cet assortiment, pourtant si remarquable, rien ne vous séduisait, rien ne vous agréait, les mêmes employés se ferait un plaisir de vous offrir encore des usines de Bastange, par Romeuf, des produits céramiques et des mutualités, des gastronomies et des chaudronneries, des encrepôts et des garanties industrielles, des Transcontinental Memphis et Paso en Amérique, et des ardoisières de Caumont, des banques catholiques et du crédit cantonal, des épargnes des paroisses et des orphelinats des arts et métiers, et des trifleries renouvelées et des cabotages internationaux. Tous ces titres, et bien d'autres encore, illustrés de vignettes alléchantes qu'on trouve chez M. Latermann, n'ont pour le commun des martyrs d'autre valeur que celle du vieux papier, qui se vend couramment de 3 à 5 sous la livre. Mais c'est la gloire de notre temps et le génie de la spéculation de tirer parti de ce qui me semble bon à rien, de donner du prix à ce qui semble n'en plus avoir aucun. Dans une société bien ordonnée, rien ne se perd, et il se trouve des agioteurs pour se disputer ces chiffons. Autour du tapis vert de Saxonne et Monaco, on voit des hommes à face blême, juste assez proprement vêtus pour être admis dans les salons, qui suivent d'un œil ardent les évolutions de la roulette, et qui, sans compter jamais, pointent d'une ardeur sans pareille les coups qu'ils succèdent. Ceux-là sont les décavés, comme ils n'ont plus en poche la pièce de 2 ou de 5 francs, qui est le minimum de la mise. Ils parient entre eux, 2 sous, 10 sous, 6 sous, et selon que leur sort la rouge ou la noire, on voit les uns sourire et les autres faire la grimace. C'est que plus leur enjeu est minime, plus poignante est leur émotion. C'est du dîner et du gîte qu'il s'agit pour la plupart. Si une couleur passe 10 fois, il y en a qui vont dormir le ventre vide dans la belle étoile. Eh bien, de même que la roulette, la bourse a ses décavés, des exécutés dont on ne veut plus au passage de l'opéra, qui se trouveraient peut-être pas un coulissier véreux pour leur prendre un ordre de 5 louis. Et doivent-ils, parce qu'ils n'ont plus la mise exigée, renoncer aux délirantes émotions de la hausse et de la baisse, à l'espoir de se refaire, au bonheur de remuer de l'argent avec la langue, faute d'en pouvoir remuer avec les mains? Ce serait trop cruel. Et forcés d'abandonner leur rente, c'est bien le moins qu'il leur soit permis de se rejeter sur les valeurs qui n'en sont plus. Il est à la bourse des recoins ignorés où grouille toute une population hétéroclite de vieux à barbe pointue et de jeunes messieurs trop bien mis, et où on trafique de toutes choses vendables et de quelques autres encore. Là se tiennent des négociants étranges qui vous proposeront des fonds de commerce, des parties de marchandises provenant de faillites, des lots de bonnes créances à recouvrer, et qui à la fin tireront résolument de leur poche une lorgnette dont ils vous vanteront la monture, une montre à portée de Genève en contrebande, un revolver ou un flacon d'eau sans pareil pour faire repousser les cheveux. C'est à ce marché qu'aboutissent tous ces titres destinés jadis à représenter des millions et qui ne représentent plus rien qu'une preuve incontestable de l'audace des fripons et de la crédulité des dupes. C'est là que se négocient toujours des gastronomies à 1,75 et des forêts de forbats noirs à 2,25. C'est là qu'il y a des éclats de joie parce que les houlières des Asturies sont en hausse de 20 sous, et des grincements de colère, parce que la compagnie française de roulage et de messagerie vient de baisser de 10 centimes. Et cependant, il ne faudrait pas croire que le hasard seul décide les fluctuations de ces valeurs fantaisistes. De même que tout ce qui se vend et s'achète, elles subissent les lois de l'offre et de la demande. Car on les demande, car on les recherche. Et c'est ici qu'apparaît l'utilité de l'industrie dont le sieur Latermann est l'un des plus recommandables représentants. Un commerçant, à la veille de déposer son bilan, veut-il priver ses créanciers d'une partie de son avoir, masquer des détournements ou dissimuler des dépenses exagérées. C'est rue Jacquelet qu'il se rend tout droit. Il achète un assortiment de crédits cantonaux, de mines de Rosdorf près d'Amstadt, ou de salines de Beaubuisson, et précieusement, il les sert dans sa caisse. Et quand se présente le syndic, « Ah voilà, lui dit-il, mon actif. Vendez là, comme vous le pouvez voir, pour 20, pour 50, pour 100 000 francs. Au prix d'émission, le tout ne vaut pas plus 100 sous. Mais est-ce ma faute? Je croyais le placement bon, et si j'ai pas vendu quand on pouvait encore vendre, c'est que j'espérais toujours que l'affaire reviendrait sur l'eau. » Et on lui accorde son concordat, parce qu'en vérité, il serait trop cruel de punir un homme de ce qu'il n'a pas su placer son argent. Il est déjà assez malheureux de l'avoir perdu, pensent les créanciers. Et c'est rue Jacquelet, pareillement, que s'adressent les estimables industriels qui se font livrer les marchandises contre un dépôt d'actions sans valeur, et ceux qui obtiennent des crédits sur consignation de titres bons achetés au panier, et bien d'autres encore, dont la Gazette des tribunaux ne se lasse pas d'enregistrer les exploits et de dénoncer l'imagination trop fertile. M. Latermann, du reste, sait mieux que personne à quel emploi on destine les valeurs sans valeur qu'on lui vient acheter. Il le sait si bien qu'il donne des consultations aux clients qui se présentent et qu'un futur failli, par exemple, il conseille de prendre telles actions plutôt que telles autres, parce qu'elles paraîtront plus vraisemblables et qu'on trouvera plus naturel qu'ils les aient achetées lors de leur émission. Oh, ils ne s'en vantent pas, moins d'être un parfait honnête homme. Mais le commerce que je fais est-il défendu ? Répond-il fièrement à ce qu'il appelle voleur. Et si on insiste, il déclare qu'il n'est pas plus responsable des vols qui se commettent avec ses titres qu'un armurier de l'aide du Meurthe commis avec un fusil qu'il a vendu. Mais il nous apprendra sûrement où en est le comptoir de crédit mutuel, répétait à Maxence M. de Trégard. 4 heures sonnaient lorsque leur voiture s'arrêta rue Jacquelet. La bourse venait de finir. On voyait encore cependant quelques groupes de coulissiers attardés sur la place, et autour des grilles, des gens qui rôdaient, comme des affamés qui auraient cherché pour les ramasser les miettes de quelque festin gigantesque. « Pourvu que le sieur Latermann soit chez lui, » dit Maxence. Ils montèrent, car c'est au second que cet honorable trafiquant a ses bureaux. Et lorsqu'ils se présentèrent, « Ah, monsieur est dans son cabinet, en conférence avec un client, » leur répondit un commis. Veuillez attendre. » L'office du sieur Latermann ressemblait à toutes les cavernes de ce genre. Un fort étroit espace y était réservé au public, et tout autour, derrière un épais feuillage de fils de fer, on apercevait des employés qui, fiévreusement, alignaient des chiffres ou comptaient des coupons. À droite, au-dessus d'un large guichet, se lisait le mot magique « caisse ». Une petite porte à gauche conduisait au cabinet du patron. Il y avait loin de cette simplicité sordide aux splendeurs du comptoir de crédit mutuel. Mais le luxe qui attire les actionnaires ne retient pas l'argent. C'est dans des bouges que s'amassent les grosses fortunes. Patiemment, M. de Trégard et Maxence s'était assis sur une dure banquette de cuir, rouge autrefois, et ils regardaient et ils écoutaient. Le mouvement ne laissait pas que d'être considérable. À tout moment, des jeunes gens bien mis arrivaient d'un air important et empressé, et tirant un carnet de leur poche, ils bredouillaient quelques phrases de ce patois hérissé de chiffres qui est la langue des affaires. Au bout d'un gros quart d'heure, « Monsieur de Latermann, en a-t-il encore pour longtemps ?» demanda Monsieur de Trégard. « Ben, je ne sais pas, » répondit un employé. Les clients se succédaient, gens de mine hétéroclite pour la plupart, d'allures inquiètes ou inquiétantes, face blême du geôlier, visage rubicond de maquignon, nez allongé de dupe. Quelques-uns étaient si misérablement vêtus qu'on leur eût donné un sou dans la rue, et que certainement ils l'eussent accepté. Et cependant, ce n'étaient pas les plus mal reçus, tant il est vrai qu'aux alentours de la bourse, surtout, l'habit ne fait pas le moine. Il y en avait qui passaient à la caisse et qui versaient ou recevaient de l'argent. D'autres, les familiers de l'office, évidemment, entraient la tête jusqu'aux épaules dans un guichet et ployés en deux, les mains appuyées sur la tablette, ils restaient en grande conférence avec les employés. Par instant, une voix s'élevait qui, dominant le murmure confus des conversations, criait « Combien ont fait les tifis là ?»« 725 » répondait une autre voix sur le même ton. « Et les épargnes des paroisses ?»« 330 » À la fin, cependant, la petite porte de gauche s'ouvrit et on vit sortir le client qui depuis si longtemps accaparait M. Latterman. Ce client n'était autre que M. Costeclar. Apercevant M. de Trigard et Maxence qui s'étaient levés au bruit de la porte, il parut, on ne peut plus, désagréablement surpris. Il pâlit même légèrement et fit un pas en arrière comme pour entrer précipitamment dans la pièce qu'il quittait. Car le cabinet du sieur Latterman, de même que celui de tous les brasseurs d'affaires, a plusieurs issues, sans compter celles qui donnent sur la police correctionnelle. Mais M. de Trégard ne lui laissa pas le loisir de battre en retraite. « Eh bien ?» lui demanda-t-il d'un ton où perçait la menace. Le brillant financier avait daigné retirer son chapeau, dernier rivé sur sa tête, et avec le sourire contraint du gredin pris dans flagrant délit. « Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici, monsieur le marquis, » dit-il. À ce titre de marquis, toutes les plumes s'étaient arrêtées, tous les nez s'étaient levés. « Bon, je le crois sans peine, » fit monsieur de Trégard, « mais moi, je vous demande où en est l'affaire. Ben, »« Elle se corse, la justice marche. En vérité. » Oui, c'est positif. Jules Letras, de la maison Letras et son frère, a été arrêté sur ton manteau au moment où il arrivait dans la bourse. Et pourquoi? Oh, parce qu'il était, paraît-il, le complice de Vincent Favral, et que c'était lui qui vendait les titres enlevés à la caisse du Crédit Mutuel. D'un regard, M. de Trégard commanda le silence à Maxence, qui, au nom de son père, avait tressailli. Et d'un accent ironique, « Fameuse capture !» murmura-t-il. « Ce qui prouve la clairvoyance de la justice. »« Mais ce n'est pas tout, » reprit vivement M. Costeclar. « Pourquoi Saint-Pavin, vous savez, le rédacteur du Pilote financier, fortement compromis, le bruit courait en clôture qu'un mandat d'amené allait ou venait d'être lancé contre lui. » Et le baron de Thaler, les employés ne pouvaient assez s'étonner de la patience dont M. Costeclar faisait preuve. « Oh, le baron, répondit-il, a apparu à la bourse ce tantôt. Il a été l'objet d'une véritable ovation. »« Ah, oh, mais c'est admirable, et que disait-il ? » « Que tout était réparé. Alors, les actions du Crédit Mutuel ont remonté. » « Malheureusement, non, elles n'ont pas pu franchir 110 francs. »« Mais cela ne vous a pas étonné ?»« Pas trop, parce que voyez-vous, je suis un homme d'affaires, moi, et je sais comment les choses se passent. »« En quittant M. de Thaler ce matin, les actionnaires du Crédit Mutuel se sont réunis et se sont engagés sur l'honneur à ne pas vendre pour ne pas assommer les cours. » C'est pourquoi, dès qu'ils ont été séparés, chacun par soi s'est dit « Si je vendais, puisque les autres qui sont des imbéciles vont garder. » Or, comme ils ont été 300 ou 400 à se tenir ce raisonnement, la place a été inondée de titres. regardant bien dans les yeux le brillant financier, si visiblement troublé que les employés ne pouvaient s'empêcher de rire. « Et vous ?» interrompit M. de Trégard. « Moi ?» balbutia-t-il. « Oui, je vous demande si vous, vous avez été plus fidèle à votre parole que les actionnaires dont vous parlez, et si vous avez fait ce dont nous étions convenus. » « Bien, assurément, et si vous me trouvez ici ?» Même M. de Trégard, lui posant la main sur l'épaule, l'arrêta net. « Je crois savoir ce que vous êtes venu faire, » prononça-t-il. « Et dans un moment, je serai fixé. Mais je vous jure, ne jurez pas. Si je me trompe, tant mieux pour vous. Mais si je ne me trompe pas, je vous prouverai qu'il est dangereux de jouer au fin avec moi. » Quoique je ne sois pas homme d'affaires. Cependant, le sieur Latermann, ne voyant pas de client venir remplacer celui qui le quittait, finit par s'impatienter et apparut sur le seuil de son cabinet. C'était un homme, encore jeune, petit, trapu, commun. On apercevait de lui d'abord que son ventre, un gros, grand et large ventre, siège de ses pensées et tabernacle de ses aspirations, un ventre de parvenu que battait une double chaîne d'or chargée de breloques. Sur un cou apoplectique, rouge comme celui d'un dindon, se dressait sa tête toute petite, garnie de rudes cheveux roux, taillés en brosse. Une barbe touffue, en éventail, encadrait sa face large de pleine lune, coupée en deux, un nez écrasé, comme celui d'un kalmouk, éclairé par de petits yeux en coulisses où éclatait la plus insigne fourberie. Ceux qui le connaissaient le mieux affirmaient que personne jamais n'avait fait impunément une affaire avec lui. Mais il la faisait à la rondeur, selon son expression, tapant sur le ventre des gens et mettant à exécuter les malheureux tombés entre ses griffes, cette bonhomie sinistre qui est le trait distinctif des Allemands. Voyant M. de Trégard et M. de Coste-Dard en grande conversation, « Tiens, vous connaissez ?» fit-il. M. de Trégard s'avança. « Oh, nous sommes même amis intimes, » répondit-il. « Il est fort heureux que nous nous soyons rencontrés. Je suis amené par la même affaire que ce cher Coste-Dard. Ils étaient en train de lui expliquer qu'il s'est trop hâté et que mieux vaudrait attendre encore 3 ou 4 jours. Mais c'est justement ce que je lui ai dit, appuya l'honorable patron de l'office de la rue Joclet. Maxence ne comprenait qu'une chose, c'est que M. de Trégard avait pénétré les desseins de M. Coste-Clar et il pouvait assez admirer son sang-froid et son habileté à saisir une occasion unique. « Heureusement, il n'y a rien de fait, » reprit le sieur Latermann. « Et qu'il est encore temps de revenir sur ce qui a été convenu, » ajouta M. de Trégard. Il s'adressant à M. Coste-Clar, « Venez, » ajouta-t-il, « nous allons nous entendre avec monsieur. » Mais l'autre, qui se souvenait de la scène de la rue Saint-Gilles, et qui avait ses raisons pour craindre, eût sauté par la fenêtre plus tôt. « Je suis attendu, balbutia-t-il. Entendez-vous tous les deux ? Alors vous me laissez carte blanche ?» Ah, si le brillant financier eût osé, mais il sentait river sur lui des yeux si menaçants qu'il n'osa même pas hasarder un geste de négation. Oh, « ce que vous ferez sera bien fait, » dit-il, de l'accent d'un homme qui se sent perdu. Et pendant qu'il gagnait la porte, M. de Trégard entrait dans le cabinet du sieur Latermann. Il n'y resta que 5 minutes, et quand il rejoignit Maxence, qui l'avait prié de l'attendre, « Bon, je crois que nous les tenons, » lui dit-il en l'entraînant. C'est chez M. Saint-Pavin que se rendaient M. de Trégard et Maxence, et ils y furent en moins de rien, car c'est à l'entrée de la rue Vivienne que sont installés les bureaux du pilote financier au 2e étage au-dessus de l'entresol, ainsi que l'indique un écusson cloué sur la porte et une main à l'index tendu peinte sur le mur de l'escalier. Il n'est personne qui n'ait au moins aperçu un exemplaire de cette feuille dont la vignette ingénieuse représente un hardi marin conduisant à pleine voile un timide passager vers le port Million à travers une mer orageuse, toute hérissée des écueils de la faillite et des récifs de la ruine. Les bureaux du pilote sont moins ceux d'un journal que ceux de la première agence d'affaires venues. De même que chez le Sierre Laterman, on y voit des employés griffonnant derrière des grillages, des guichets, une caisse et, sur une immense ardoise, le cours écrit à la craie de la rente et des valeurs françaises étrangères. C'est qu'en vérité, le pilote financier n'est que le porte-voix d'une usine de tripotage. Comme il dépense chaque année une centaine de mille francs en publicité pour accoler des abonnés, et comme d'autre part il ne coûte que 3 francs par an, il est clair que ce n'est pas sur les abonnements qu'il réalise des bénéfices. Il a d'autres sources de revenus. Ses courtages d'abord, car il vend et achète et exécute, disent ses prospectus, tous les ordres de bourse généralement quelconques, au milieu de l'intérêt du client. Et la besogne ne lui manque pas. Les petits capitalistes de province ont des fantaisies singulières. Ils pourraient, lorsqu'ils ont des fonds disponibles, les porter à quelques banquiers de leur ville, à un homme connu dont ils savent la vie et la fortune, dont ils estiment le caractère et respectent la probité. Mais non, ce serait trop simple et trop sûr. Ils aiment mieux envoyer leur argent à Saint-Pavin, qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, uniquement pour cette raison qu'un beau matin, la poste leur a apporté gratis un numéro du pilote financier, où ils ont lu que ledit Saint-Pavin est le premier homme du monde pour manœuvrer les capitaux, en tirer des intérêts fabuleux et enrichir ses clients. Et ils sont nombreux, les gens que Saint-Pavin grise de ses articles, qu'il éblouit de ses chiffres, qu'il prend au miroitement des primes et des reports. « J'ai 50 000 abonnés, dit-il fièrement. » Et c'est absolument exact. Il y a, de par la France, 50 000 bonnes âmes qui paient 3 francs par an la prose de Saint-Pavin. Il en est bien sûr, ce moment, ce nombre 8 ou 10 000 qui se laissent piloter par lui, vendant quand il conseille de vendre, achetant dès qu'il dit d'acheter. Mais aux courages opulents, il convient d'ajouter la réclame « autre mine ». Pas d'affaires sans le pilote financier. 6 fois sur 10, le jour où une affaire s'organise, les organisateurs ont mandé Saint-Pavin. Honnêtes ou fripons, il leur faut passer par ses mains. Ils le savent et ils y sont d'avance résignés. « Nous avons compté sur vous, lui disent-ils. » Et lui, « Quels avantages faites-vous ? » On discute alors l'opération, ce que peut rapporter la société à lancer et ce qu'exige Saint-Pavin avant d'emboucher la trompette. Si pour 100 000 francs il promet des accès de lyrisme et de chauffer sa clientèle à blanc, pour 50 000 il ne sera qu'enthousiaste. À 20 000 francs, il fera de l'affaire un éloge raisonnable. À 10 000, il gardera simplement la neutralité. Et si la dite société refuse tout avantage au pilote, « Oh, prenez garde !» dit Saint-Pavin. Et dès le numéro suivant, il commence sa campagne. Il est modéré d'abord et se réserve le moyen de revenir. Il n'émet que des doutes. La ferme ne la connaît pas bien, elle est peut-être excellente, il se peut qu'elle soit détestable. Le plus sûr est d'attendre, de voir venir. C'est la première sommation. Et si elle est infructueuse, il empoigne de rechef sa bonne plume financière et accentue ses défiances. Habile à éviter les procès en diffamation, il insinue que les calculs ne sont peut-être pas exacts, qu'on a bien involontairement enflé le chapitre des bénéfices probables et diminuer celui des dépenses certaines. Oh, c'est son métier, c'est incontestable. Il s'entend à grouper les chiffres, à démontrer, selon les besoins de sa thèse, que 2 et 2 font 3 ou font 5. Il est rare qu'avant le 3e article, la société visée ne mette pas les pouces. Nous nous rendons. Allez, voilà temps. Et il faut le donner poliment, ce temps, avec des égards et comme chose due. Saint-Pavin est susceptible à ses heures. Il se bat, il s'est battu. Il a rudement traîné sur le terrain le fils d'un financier puissant qui lui avait tendu 10 000 francs au bout d'une paire de pincettes. Et si cependant la société tympanisée ne met pas les pouces, oh, alors il devient terrible. Il casse les vitres et n'ayant plus rien à espérer, il ne ménage rien. Mais il est rare qu'il soit forcé d'en venir à ses extrémités. Son influence est très réelle, très positive et on le sait. Il ne se vante pas quand il raconte comme quoi, lors de l'emprunt de New Cestos, un des plus immenses floris de ce temps, il tira de sa clientèle la somme énorme de 2 500 000 francs, dont le 1/10 resta dans les caisses du pilote. Ainsi, Saint-Pavin serait-il depuis longtemps millionnaire s'il était l'unique propriétaire du journal qu'il dirige. Et il ne l'est pas, malheureusement. Qu'une mésaventure advienne, qu'il faille répondre à la justice ou tenir tête à des clients trop durement étriés, oh, il est le seul en nom, seul responsable. Mais s'agit-il de partager les bénéfices? Oh, c'est une autre paire de manches. Les commanditaires arrivent. Car, hélas, Saint-Pavin a des commanditaires, ou plutôt, il n'est qu'un instrument dont jouent impitoyablement 3 ou 4 de ces famatois de la finance qui ont un pied dans toutes les affaires, un œil dans tous les tripotages et une main dans toutes les poches. À Saint-Pavin, le péril et la peine, à eux le profit. On tient en piètre estime le directeur du pilote financier. Mais eux, aux côtés, sur la place, considérés, recherchés, décorés, ils avancent les lèvres d'un air insurmontable dégoût dès qu'on prononce devant eux le vilain mot de chantage. « Bon, j'aurai ma revanche, » gronde-t-il quelquefois. Il ne l'aura jamais, car il lui manque les deux qualités essentielles à la bourse, la discrétion et le sang-froid. Au rebours de ses compatriotes du Midi, qui restent de glace intérieurement, tout en jetant feu et flamme, Saint-Pierre, Favin, Saint-Pavin s'échauffe pour tout de bon. Grand hableur, il finit si bien par prendre ses hableries au sérieux qu'on a pu dire de lui qu'il n'avait jamais mis personne dedans sans s'y être mis lui-même. Jusqu'à ce point qu'au moment de l'emprunt de New Cestos, ayant reçu pour ses articles 10 000 francs de prime, il les plaça dans le dit emprunt, dupe des réseaux qu'il avait accumulés depuis un mois pour démontrer les avantages de cette audacieuse piperie. Avec ce tempérament, vivant dans ce milieu dangereux de gens qui souvent n'ont pas le sou, qui sont toujours sûrs de gagner leurs millions fin courant, Saint-Pavin se trouve avoir une existence singulière. « C'est la misère, dit-il, tempérée par des pots de vin. » On a vu rouler voiture au commencement d'un mois, et le 30, n'avoir plus de souliers à se mettre aux pieds. Il était jeune alors. En vieillissant, ennuyé de ses alternatives de misère et de luxe, il a fini par adopter, pour ne s'en plus départir, le débraillé d'un homme revenu de toutes les illusions et qui n'attache plus d'importance qu'aux jouissances positives et immédiates. Son appartement est un taudis où on marche sur une litière de bouts de cigare, mais il mange dans les restaurants renom, ne boit que du meilleur et ne fume que des havanes de choix. Bon compagnon d'ailleurs, obligeant à l'occasion. Convive solide, causeur spirituel, d'une impudence rare et d'un cynisme renversant, il a fini par se faire admettre partout en répétant toujours ben, « Je suis comme cela, il faut me prendre comme je suis. » Tout Paris le connaît et il a beaucoup d'amis. Ainsi les bureaux du pilote financier étaient-ils pleins lorsque M. de Trégard et Maxence y arrivèrent, pleins de cette foule de gens qui vivent de la bourse, spéculateurs, remisiers, intermédiaires, venus là aux nouvelles et pour discuter les fluctuations du jour et les probabilités du marché du soir. « Monsieur de Saint-Pavin est occupé, » leur dit un garçon de bureau taillé en force. Vous entendez sa voix brutale, car il était non pas dans son cabinet, mais dans le bureau même, derrière les grillages garnis des rideaux verts. Bientôt il se montra, reconduisant un vieux bonhomme, qui semblait confondu de l'algarade, et auquel il criait « Non, monsieur, non, le pilote financier ne se charge pas d'exécution pareille. Et je vous trouve bien hardi de venir proposer des gredineries de dessous. » Mais apercevant Maxence, « Oh, monsieur Favoral, dit-il, parbleu, mais c'est ma bonne étoile qui vous amène. Passez dans mon cabinet, cher monsieur, passez, nous allons rire. » Beaucoup parmi les gens qui se trouvaient dans les bureaux du pilote avaient un mot à dire à M. Saint-Pavin, un conseil à lui demander, un ordre à lui transmettre, une nouvelle à lui communiquer. Il s'était donc avancé et l'entourait, lui souriant et lui tendant amicalement la main. Il les écartait avec sa brusquerie ordinaire. « tout à l'heure, je suis occupé, laissez-moi. » Et poussant Maxence vers la porte de son cabinet qu'il venait d'ouvrir. « Entrez donc, vous » faisait-il d'un ton d'impatience extraordinaire. Mais M. de Trégard entrait aussi, et comme il ne le connaissait pas. « Ah, ça, mais qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il brutalement. Maxence se retourna. « Monsieur est mon meilleur ami, » prononça-t-il, « et je n'ai pas de secret pour lui. » « Bon, mais qu'il passe donc, mais sacrebleu, faisons vite !» Fort somptueux autrefois, le cabinet de M. le directeur du pilote financier était un peu à peu tombé dans un état de sordide délabrement. Si le garçon de bureau avait reçu l'ordre de n'y jamais promener le plumeau, ni le balai, il obéissait ponctuellement. Ah, le désordre et la malpropreté y régnaient. Les cartons en lambeaux pendaient misérablement hors des cartonniers, et sur les larges divans séchait depuis des mois la boue des bottes de tous les visiteurs qui y étaient vautrés. Sur la cheminée, au milieu d'une demi-douzaine de verres crasseux, se dressait une bouteille de vin de Madère à moitié vide. Enfin, devant l'âtre, sur le tapis et le long de tous les meubles, s'amoncelaient à profusion les bouts de cigares et de cigarettes. Dès qu'il eut fermé au verrou la porte de son cabinet, venant se planter droit devant Maxence, « Qu'est devenu votre père ?» demanda brusquement M. Saint-Savin. Maxence tressaillit. S'il s'attendait à une question, ce n'était certes pas celle-là. « Je l'ignore, » répondit-il. Le directeur du pilote haussa les épaules. Bon, que vous répondez cela au commissaire de police, dit-il au juge et à tous les ennemis de Favoral, je le comprends, c'est votre devoir. Qu'il vous croit, je le comprends encore, parce qu'au fond, que leur importe. Mais à moi, qui suis un ami, sans que vous vous en doutiez, à moi, qui ai des raisons de n'être pas crédule. Mais je vous jure que nous ne savons pas du tout, il s'est réfugié. » Et Maxence disait cela d'un tel accent de sincérité qu'il n'avait pas douté. Aussi une vive surprise se peignit-elle sur les traits de M. Saint-Pavin. « Quoi, dit-il, votre père a filé comme ça, sans s'assurer le moyen d'avoir des nouvelles de sa famille. » Eh oui, sans dire un mot de ses intentions à votre mère, à votre sœur, à vous-même. Sans un mot. Sans laisser d'argent, peut-être. Paul n'a trouvé, après son départ, qu'une somme insignifiante que le commissaire a tenu à laisser à ma mère. Le directeur du pilote financier eut un geste d'ironique admiration. « Alors, c'est complet, » fit-il. « Et Vincent est décidément un homme très fort. »« Monsieur, ou plutôt, ces satanées femmes lui tenaient au cœur beaucoup plus qu'on ne le supposait. » Silencieux jusqu'alors et resté à l'écart, M. de Trigard s'avança. « Quelle femme » interrogea-t-il. Le dépit de M. Saint-Bavin était manifeste. « Est-ce que je le sais ?» répondit-il brutalement. « Est-ce que personne n'a jamais rien su des affaires d'un matin, plus hermétiquement boutonné dans sa redingote qu'un jésuite dans sa soutane ?»« Mais M. Costecla, oh, encore un joli coco, celui-là !»« Cependant, oui, il a peut-être découvert quelque chose de l'existence de Vincent, car il faisait drôlement aller. »« N'a-t-il pas dû épouser Mademoiselle Favoral ?»« Mais malgré elle, oui. »« Alors vous avez raison. » Il avait surpris quelque chose. Mais si vous comptez sur lui pour vous apprendre quoi que ce soit, vous comptez sans votre hôte. Qui sait ? Murmura M. de Trégard. Alors M. Saint-Bavin, qui ne l'entendit pas, en proie à une agitation surprenante, arpentait son cabinet. Oh ! Ces hommes d'apparence froide, grondait-il. Ces hommes à mine discrète. Ces rogneurs de liards, ces calculateurs, ces moralistes, quand ils se mettent à faire des sottises. Qui peut imaginer à quelle insanité on aura poussé celui-ci, et quel parti il aura pris, sous l'empire de quelques passions enragées. Et frappant furieusement du pied ce qui dégageait du tapis des nuages de poussière. Il faut pourtant que je le déniche, jurait-il. Et par le tonnerre du ciel, où qu'il se cache, je le dénicherai. C'est d'un œil perspicace que M. de Trégard observait le directeur du pilote. Vous avez donc, fit-il, un grand intérêt à le retrouver ? L'autre s'arrêta court. Ben, j'y ai l'intérêt, répondit-il, d'un homme qui se croyait un malin et qui se voit jouer comme un enfant et dupé comme un sot. D'un homme à qui on avait promis bons et merveilles et qui voit sa situation menacée. Et d'un homme qui est là de travailler à la fortune d'une bande de brigands qui entasse millions sur millions et qui, pour toute récompense, lui offre la police correctionnelle et la perspective d'une retraite à Poissy pour ses vieux jours. L'intérêt, enfin, d'un homme qui veut se venger et qui, finit par le salon de Dieu, se vengera. Et de qui ? Mais de monsieur le baron de Thaler, monsieur. Et reprenant sa promenade. Comment a-t-il pu, poursuivait-il, contraindre Favoral à endosser la responsabilité de tout et à disparaître ? Quelle somme énorme lui a-t-il donnée ? Monsieur, interrompit vivement Maxence, mon père est parti sans un sou. Monsieur de Saint-Bavin éclata de rire. Et les 12 millions, demanda-t-il. Qu'en a-t-on fait? Pensez-vous qu'on les a distribués en bonnes œuvres? Et sans attendre d'autres objections. Cependant, continua-t-il, ce n'est pas avec de l'argent seulement qu'on peut décider un homme à se déshonorer et à se perdre pour un autre, à s'avouer voleur et faussaire, à braver le borgne et à tout abandonner, pays, famille, amis. Évidemment, le baron de Thaler avait d'autres moyens d'action. Il tenait Favoral. Monsieur de Trégard l'arrêta. « Mais vous parlez, lui dit-il, comme si vous étiez absolument sûr de la complicité de monsieur de Thaler. Parbleu ! Mais pourquoi ne descendez-vous pas ? » Le directeur du pilote eut un violent mouvement de recul. « Fourrez moi-même le nez de la justice dans mes affaires !» s'écria-t-il, peste, comme vous y allez. Pourquoi cela m'avancerait-il d'ailleurs ? Ai-je des preuves à fournir de mes allégations? Croyez-vous donc que Thaler n'a pas pris ses précautions et n'a pas lié les mains? Qu'on se crève un œil pour crever les deux yeux d'un ennemi, très bien. Mais s'émordier, pour la gloire, ce serait trop bête. Sans Faverolles, rien à faire. Supposez-vous donc que vous le décideriez à se livrer à la justice? Non, mais à me fournir les preuves qui me manquent, pour envoyer Thaler là où déjà ils ont envoyé ce pauvre Jean Grasse. Et s'animant de plus en plus. Mais c'est pas dans un mois qu'il me les faudrait, ces preuves, poursuivait M. Saint-Pavin. Ni même dans 15 jours, mais demain, mais à l'instant même. Avant la fin de la semaine, Thaler aura fait son coup, réalisé on ne sait combien de millions, et tout remis si bien en ordre que la justice, qui en matière de finances n'est pas de première force, n'y verra que du feu. Si Thaler va jusque-là, il est sauvé. Le voilà sacré financier de premier ordre et en atteinte. Alors où le montera-t-il pas? Déjà, il parle de se faire nommer député, et il raconte partout qu'il a trouvé pour épouser sa fille un gentilhomme qui porte un des plus vieux noms de France, le marquis de Trégard, montrant Marius. « Mais c'est monsieur qui est le marquis de Trégard !» s'écria Maxence. Pour la première fois, M. Saint-Pavin prit la peine d'examiner son visiteur, et lui, qui avait trop pratiqué la vie pour ne pas connaître cet homme, y parut étonné. « Oh, veuillez m'excuser, monsieur, prononça-t-il avec une politesse fort éloignée de ses habitudes, et permettez-moi de vous demander si vous soupçonnez les raisons qu'a M. de Thaler de tenir prodigieusement à vous avoir pour gendre. « Je pense, répondit froidement M. de Trégard, que M. de Thaler serait heureux de m'enlever le droit de rechercher les causes de la ruine de mon père. » Mais il fut interrompu par un grand bruit de voix dans la pièce voisine, et presque aussitôt on frappa rudement à la porte, et quelqu'un dit « Au nom de la loi !» Le directeur du pilote financier était devenu plus blanc que sa chemise. Il dit « Oh, voilà ce que je craignais. Thaler m'a gagné de vitesse. » Et encore « Oh, je suis peut-être perdu. » Cependant, il ne perdit pas la tête. D'un mouvement prompt comme la pensée, il sortit d'un tiroir une liasse de lettres qu'il lança dans la cheminée et auquel il mit le feu, en disant d'une voix enrouée par l'émotion et par la colère, « On n'entrera pas qu'elle ne soit brûlée. » Mais elle mettait à s'enflammer une lenteur désespérante. Il faut avoir, en un moment critique, anéanti des documents compromettants, pour savoir avec quelles difficultés inouïes le papier en masse brûle. Du bois vert serait plus vite consumé. Du dehors, on secouait la porte et on criait « Ouvrez !» Agenouillé devant l'âtre, M. Saint-Pavin remuait éparpiller ses paperasses. « Et maintenant, lui dit M. de Trégard, hésiterez-vous à livrer à la justice le baron de Thaler ?» Il se retourna, les yeux étincelants. « Mais maintenant, répondit-il, si je veux être sauvé, il faut que je le sauve. Mais ne comprenez-vous pas qu'il me tient ?» Et voyant que les derniers feuillets de sa correspondance flambaient, bon, « vous pouvez ouvrir à présent, » dit-il à Maxence. Maxence obéit, et un commissaire de police, ceint de son écharpe, se précipita dans le cabinet pendant que ses hommes, non sans peine, contenaient la foule de la première pièce. C'est qu'elle était terriblement émue, cette foule. Il n'était pas un des boursiers qui s'y trouvait mêlé, qui ne frémit d'une catastrophe, dont vaguement il se sentait menacé dans l'avenir. Le terrain de la spéculation est si glissant, l'occasion si perfide. Il n'en était pas un qui, regardant Saint-Pavin, ne se dit intérieurement « Aujourd'hui, lui, mais demain, moi, peut-être. » Le commissaire de police, cependant, un vieux routier qui en était à sa 100e expédition de ce genre, avait d'un coup d'œil examiné le cabinet, apercevant dans la cheminée les débris carbonisés sur lesquels voltigeait encore une flamme mourante. « Ah, voilà donc, dit-il, pourquoi on tardait tant à m'ouvrir ?» Un sourire goguenard effleura les lèvres du directeur du pilote. « Voilà ses affaires personnelles, répondit-il, des affaires de femmes. Ce sera une preuve morale contre vous, monsieur. Oh, je la préfère à une preuve matérielle. » Ne daignant pas relever l'impertinence, le commissaire, d'un regard soupçonneux, toisait Maxence et Monsieur de Trégard. « Qui sont ces messieurs qui étaient enfermés avec vous ?» demanda-t-il à Monsieur Saint-Pavin. « Oh, des visiteurs, monsieur que voici et monsieur Favoral. Le fils du caissier du Crédit Mutuel ? Oui, précisément, et monsieur le marquis de Trégard. » En entendant frapper au nom de la loi, « ces messieurs auraient dû ouvrir !» grommela le commissaire. Mais il n'insista pas. Tirant de sa poche un papier, il le déplia et le présentant au directeur du pilote financier. « Je suis chargé de vous arrêter, reprit-il. Voici le mandat d'amener. » D'un geste insouciant, l'autre le repoussa. « Oh, à quoi bon lire, dit-il. Quand j'ai appris l'arrestation de ce pauvre Lotras, j'ai compris ce qui me pendait au nez. Il s'agit, j'imagine, du vol du Crédit Mutuel. » Oui, précisément. Oh, j'y suis aussi absolument étranger que vous-même, monsieur, et je n'aurai pas de peine à le démontrer. Mais cela ne vous regarde pas, et vous allez, je suppose, apposer les scellés sur mes papiers. Oui, sauf sur ceux que vous avez brûlés. Monsieur Saint-Pavin éclata de rire. Il avait repris son impudence et son sang-froid, et semblait aussi à l'aise que si ce fût agi la chose la plus naturelle du monde. « Me sera-t-il permis, demanda-t-il, de parler à mes employés et de leur donner mes instructions ?»« Oui, répondit le commissaire, mais en ma présence. » Appelés, les employés parurent. La consternation peinte sur le visage, mais la joie pétillant dans les yeux. Réellement, ils étaient ravis de la mésaventure de leur patron. De même que M. Saint-Pavin reprochait à M. de Thaler de spéculer sur lui, ils accusaient M. Saint-Pavin de les exploiter indignement. « Vous voyez ce qui m'arrive, mes enfants, leur dit-il. Mais rassurez-vous, il en sera cette fois comme la dernière. » Avant 48 heures, on aura reconnu l'erreur dont je suis victime, ou je serai relâché sous caution. Quoi qu'il en soit, je puis compter sur vous, n'est-ce pas ? Tous lui jurèrent qu'ils allaient redoubler de zèle. Et alors, s'adressant à son caissier, qui était son homme de confiance et le bras droit des commanditaires, quant à vous, Bénard, reprit-il, vous allez courir chez M. de Thaler et lui apprendre ce qui se passe. Qu'il prépare les fonds, car dès demain, tous les gens qui ont de l'argent chez nous vont venir le retirer. Vous passerez ensuite à l'imprimerie. Vous ferez décomposer mon article sur le Crédit Mutuel et vous le remplacerez par des nouvelles financières que vous couperez dans les journaux. Ne parlez pas de mon arrestation, surtout à moins que M. de Thaler ne l'exige. Allez, que le pilote paraisse comme à l'ordinaire, c'est l'important. » Il avait, tout en parlant, allumé un cigare. L'homme de bien, victime de l'iniquité humaine, n'a pas une contenance plus ferme ni plus tranquille. « La justice, dit-il au commissaire, qui furetait dans les tiroirs du bureau, la justice ne sait pas l'irréparable mal qu'elle peut faire en arrêtant aussi légèrement Un homme chargé comme je le suis d'immenses intérêts. C'est la fortune de 10 ou 12 000 petits capitalistes qu'elle compromet. Déjà, les témoins de l'arrestation s'étaient retirés un à un pour en aller donner la nouvelle tout le long du boulevard et aussi pour songer au parti à en tirer, car une nouvelle à la bourse, c'est de l'argent. À leur tour, M. de Trégard et Maxence sortirent. « Surtout n'allez pas raconter ce que je vous ai dit !» leur criait encore M. de Saint-Pavin au moment où ils passaient la porte. M. de Trégard ne répondit pas. Il avait le visage contracté, les lèvres serrées, d'un homme en train de peser quelque grave détermination sur laquelle il ne serait plus possible de revenir. Une fois dans la rue, et lorsque déjà Maxence ouvrait la portière de leur fiacre, « Nous allons nous séparer ici, » lui dit-il de cette voix brève qui annonce un parti définitivement arrêté. « J'en sais assez maintenant pour me présenter chez M. de Thaler. C'est là seulement que je verrai comment frapper le coup décisif. Entrez rue Saint-Gilles, rassurez votre mère et Gilberte. Vous me verrez, je vous le promets, dans la soirée. » Et sans attendre une réplique, il s'élança dans le fiacre qui partit aussitôt. Mais ce n'est pas rue Saint-Gilles que se rendit Maxence. Il tenait à voir d'abord Mademoiselle Lucienne, à lui apprendre les événements de cette journée, la plus remplie de son existence, à lui dire ses découvertes, ses étonnements, ses angoisses et ses espérances. À sa grande surprise, il ne la trouva pas à l'hôtel des Folies. Sorti en voiture à 3 heures, lui dit Lafortin, elle n'était pas encore entrée. Elle ne pouvait tarder, d'ailleurs, il est vrai, car déjà le jour baissait. Maxence ressortit donc pour aller à sa rencontre. Suivant le trottoir, il était arrivé à cet escalier qui rend impraticable une partie du boulevard du Temple, quand au loin, sur la place du Château d'Eau, il lui sembla apercevoir un tumulte inaccoutumé. Presque aussitôt, des cris de terreur retentirent. Des gens affolés se mirent à fuir dans toutes les directions, et une voiture lancée à fond de train passa devant lui comme un éclair. Mais, si vite qu'elle eut passé, il avait eu le temps d'y reconnaître Mademoiselle Lucienne, pâle et désespérant, cramponnée au coussin. Éperdu, il se mit à courir de toutes ses forces. Il était clair que le cocher n'était plus maître de ses chevaux, qui galopait d'un galop furieux. Un sergent de ville, qui essaya de les arrêter, fut renversé. 10 pas plus loin, une roue de derrière de la voiture, accrochant la roue d'une lourde charrette, volait en éclats. Et Mademoiselle Lucienne était lancée sur la chaussée, pendant que le cocher, précipité de son siège, roulait jusque sur le trottoir.